Vous êtes sur RTL.
7h.
RTL Matin, tout de suite, Stéphane Carpentier.
Et l'actualité de votre samedi, si vous nous rejoignez, si vous ouvrez les yeux, vous devez savoir ce matin que la France est le premier pays européen touché par le nouveau coronavirus chinois. 3 cas ont été confirmés hier soir par le ministère de la Santé et Agnès Buzyn en particulier.
Il est probable que nous ayons les premiers cas européens parce que nous avons mis au point le test très rapidement et que nous sommes capables de les identifier. Donc nous avons très vite repéré les premier cas positif sur le territoire.
3 cas en France donc, un patient hospitalisé à Bordeaux, 2 autres à Paris. Virginie Garin, des malades évidemment placés sous surveillance.
Oui, les patients ont été isolés dans des chambres spéciales. Une 30aine d'hôpitaux en France sont équipés de pièces à pression négative pour que le virus ne puisse pas en sortir. Ces personnes sont soignées par des infirmiers et médecins en combinaison. Elles seraient toutes en bonne santé, mais elles vont rester jusqu'à la disparition complète du virus. Les médecins français vont ainsi pouvoir mieux connaître la maladie, savoir combien de temps le virus résiste. 2 des malades au moins sont passés par la ville de Wuhan en Chine. L'un est arrivé en Europe par la Hollande, puis s'est rendu à Bordeaux. Constatant qu'il avait de la fièvre, il a appelé SOS Médecins. Quand il a dit qu'il venait de Chine, des médecins du SAMU sont venus le chercher en combinaison de protection. Un test a permis rapidement d'identifier le coronavirus. Un autre malade est hospitalisé à l'hôpital Bichat à Paris. Un 3e est de sa famille. Les autorités de santé essayent de remonter maintenant leur parcours jusqu'aux personnes qu'ils ont pu rencontrer. Rappelons que ce virus est mortel dans 2 à 3% des cas. Lors des 2 épidémies précédentes de coronavirus en 2002 et 2012, les taux de mortalité étaient de 30 à 50%, beaucoup plus élevés.
Virginie Garin, merci pour ces précisions, pour ces 3 cas confirmés donc chez nous en France. On va y revenir en détail avec notre invité tout à l'heure à 8h50. Il s'agira du professeur Bruno Lina. Concernant la Chine, nous en sommes à 41 morts. Près de 1300 cas recensés parmi les habitants. Un grand nombre de festivités du nouvel an lunaire annulées dans le pays. La ville de Wuhan est impossible d'accès, les rues désertes, les commerces fermés, le port du masque obligatoire, l'armée chinoise déploie du personnel médical sur place et les pelleteux sont de sortie pour la construction en urgence d'un hôpital qui devrait être achevé dans 10 jours. À 7h15, nous passerons un coup de fil au docteur Philippe Klein. Il est médecin français, il travaille sur place, il gère au mieux la situation et il va nous confirmer tout à l'heure qu'une opération d'évacuation des ressortissants français va être lancée. L'Australie a fait savoir cette nuit qu'à son tour, le pays est concerné avec le premier cas de coronavirus détecté chez un homme rentré à Melbourne après un séjour à Wuhan. Vous avez un dossier complet donc sur ce virus chinois sur notre site rtl.fr. L'autre actualité de ce samedi matin concerne ces 3 Français portés disparus en Irak. 3 Français et un Irakien, collaborateurs expérimentés de l'ONG française SOS Chrétiens d'Orient. Ils sont introuvables depuis lundi, vus pour la dernière fois aux alentours de l'ambassade de France à Bagdad. Et depuis, plus rien, pas de revendication, pas de demande de rançon et aucun commentaire du ministère français des Affaires étrangères à Paris. Plusieurs scénarios sont possibles, à en croire Gérard Bapt, député PS de Haute-Garonne et membre du groupe d'amitié France-Irak.
Il y a 2 hypothèses. On peut exclure l'attentat parce qu'on aurait su. Alors, soit c'est un enlèvement par un groupe djihadiste sunnite irakien. Et là, c'est très, très inquiétant. Soit c'est un enlèvement par un groupe paramilitaire chiite, auquel cas il faudrait s'attendre à une revendication de type politique, je ne sais laquelle. En tout cas, j'espère que c'est de ce côté-là qu'il faut faire pencher la balance aujourd'hui de l'incertitude.
Le député Gérard Bapt, membre du groupe d'amitié France-Irak, au téléphone RTL de Julien Fautra. Au Québec, la police espère toujours retrouver les corps des Français disparus en motoneige. 4 touristes tombés mardi dans les eaux glacées d'un lac lors d'une expédition. Ils demeurent introuvables alors qu'une première victime a été repêchée à 2 kilomètres des lieux de l'accident. Les recherches se prolongent ce samedi incendie avec des patrouilles de police, des équipes de plongeurs, mais aussi un hélicoptère. Le groupe de touristes était originaire de l'Est de la France. Rendez-vous mercredi, le 29 janvier, date choisie par l'intersyndicale pour remettre ça pour une nouvelle journée de grève interprofessionnelle. Ce sera la 8e. Après un vendredi où les autorités ont recensé 249 000 manifestants dans tout le pays, l'objet de la grogne, c'est toujours la réforme des retraites. Même si le texte du projet de loi est passé hier par la case du Conseil des ministres, les contestataires ne veulent rien lâcher. Ils étaient à Paris 31 000, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 350 000 selon la CGT. Traditionnelle bataille de chiffres et des Français en colère qui souhaitent maintenir la pression sur l'exécutif. Aurélia Valarié, vous étiez hier dans le cortège parisien.
Entre les banderoles et les pancartes, un manifestant sort du lot. Sur son bonnet, Thierry a un long voile de mariée qui lui couvre entièrement le visage à la recherche de son prince charmant.
Aujourd'hui, avec qui est-ce que je me marie? En tout cas, ni avec Blanquer, ni avec Macron, ça c'est clair, c'est le divorce complet.
Enseignant en grève depuis le début du mouvement, la cause est trop importante pour s'arrêter là.
Parti pour continuer jusqu'au retrait, multiplier les différentes manifestations, les différentes actions, interventions, même si ça dure longtemps. Et avec tous les sacrifices qu'il faut faire, mais ce qui se passe est beaucoup trop grave.
Un peu plus loin dans le cortège, Grégory Cheminot fait la quête auprès des manifestants. Une petite caisse dans les mains, remplie de pièces et de billets, en prévision des prochaines semaines.
Bah, au bout de 51 jours de grève, je vous dirais qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, qu'on ne va pas lâcher le bout de gras. Pour le moment, vu la politique du gouvernement, bah, ça va se durcir, et dans le discours et dans la manière de faire.
Pour lui, aucun doute, il sera présent le 29 janvier pour le prochain rassemblement, mobilisé jusqu'au retrait total de la réforme.
Il n'y a rien.
Reportage RTL à Paris, Aurélia Valarié. Quant au projet de loi, voilà trois semaines que le Conseil d'État planche dessus, lequel déplore les projections financières lacunaires du gouvernement. Conseil d'État qui estime ne pas avoir eu le temps de garantir au mieux la sécurité juridique de cette réforme des retraites. On va vous en reparler. Dans un instant, Michel Fourniret a-t-il tué Estelle Mouzin? Son ex-femme Monique Olivier en est convaincue. Elle l'a dit hier aux enquêteurs.
RTL Matin.
RTL Matin, 7h08, suite du journal, Stéphane Carpentier.
Et donc l'étau se resserre encore un peu plus dans l'affaire Estelle Mouzin sur Michel Fourniret. Les soupçons à l'encontre du tueur en série se sont renforcés hier après une nouvelle audition de son ex-épouse. Monique Olivier assure que l'ogre des Ardennes a bien tué la fillette disparue en 2003. Elle est allée jusqu'à évoquer de possibles repérages avant l'enlèvement. Il s'agit d'un dossier criminel hors norme selon la juge d'instruction et cette audition de 6 heures a été très riche en confidences. Si l'on en croit son avocat, maître Richard Delgen.
Elle a indiqué que pour elle, Michel Fourniret avait bien tué Estelle Mouzin pour trois raisons. La première, selon elle, c'est qu'elle avait le profil type des sujets que recherchait Michel Fourniret. Deuxièmement, elle a confirmé qu'effectivement, il lui avait demandé de passer un appel à son fils Jean-Christophe le jour de la disparition d'Estelle Mouzin. Troisièmement, et surtout, elle pense qu'il a opéré des repérages, repéré une ou deux jeunes filles dans les semaines ou jours qui précèdent l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Enfin, elle a indiqué que sur la période 90 à 2000, Michel Fourniret, lorsqu'il partait en chasse, revenait, qu'elle avait plusieurs fois eu l'occasion de prononcer la phrase « Celle-ci, au moins, on la retrouvera jamais ». Donc, ce qui laisse à penser que sur la période, plusieurs disparitions sont imputées à Michel Fourniret. On a bien avancé sur la piste Fourniret et on a plus avancé aujourd'hui en 6 heures qu'en 10 ans.
Maître Richard Delgen au micro RTL de Cindy Hubert. Une femme grièvement blessée par arme à feu. Ça s'est passé jeudi soir dans un appartement du Boulou. C'est au sud de Perpignan. Son concubin a été placé en garde à vue. La victime, mère de famille, est toujours hospitalisée ce matin avec un pronostic vital engagé. L'actualité à l'étranger nous conduit aux États-Unis avec les suites du procès en destitution de Donald Trump. Ça se passe au Sénat. C'était hier la troisième et dernière journée consacrée à l'accusation. Le tout à 10 mois de la prochaine présidentielle. Les procureurs démocrates ont accusé Trump d'être un danger pour la démocratie. Aucun cadeau, Philippe Corbet, en attendant la réponse du patron de la Maison-Blanche.
Oui, les avocats du président ont maintenant 3 journées pour répondre, mais il est possible qu'ils réservent leurs flèches les plus acérées pour le début de semaine, car Donald Trump a tweeté que le samedi est la vallée de la mort des audiences télé, et il veut que ses avocats le défendent devant le plus de téléspectateurs possible. Après 3 jours de présentation détaillée de l'accusation, les procureurs démocrates ont conclu cette nuit que si le président est acquitté, l'Amérique gardera pour toujours la cicatrice d'une blessure.
Il veut avoir tous les pouvoirs. S'il n'est pas destitué, sa seule volonté comptera. C'est un dictateur, ça ne peut pas continuer. Et c'est pour ça qu'il doit être destitué.
Mais la Maison-Blanche les a prévenus que si une poignée de sénateurs vote avec les démocrates pour convoquer des témoins au procès, il finit finiront, je cite, avec leur tête sur une pique.
Philippe Corbet, RTL aux États-Unis. Les États-Unis qui soutiennent depuis un an maintenant Juan Guaido, qui s'était autoproclamé en janvier 2019 président du Venezuela, espérant évincer Nicolas Maduro. Sauf que depuis, rien n'a bougé dans le pays sud-américain. Hier, Guaido a été reçu par Emmanuel Macron. Le président l'a confirmé sur Twitter pour un échange constructif à l'Élysée, avec une photo des deux hommes se serrant la main, la France faisant partie de la cinquantaine de pays qui reconnaissent Juan Guaido comme président par intérim. Les sports, c'est d'abord un sourire et le poing serré de Gaël Monfils qui a décroché cette nuit son billet pour les huitièmes de finale de l'Open de tennis de Melbourne en Australie. Le Français, le dernier en lice, a dominé le Letton Gulbis en moins de 2h30 et en 3-7, 7-6, 6-4, 6-3, donc pas de frayeur. Le basket, c'était soir de fête à Bercy hier avec un match officiel de la NBA, la prestigieuse ligue américaine. Les Milwaukee Bucks ont battu les Charlotte Hornets 116 à 103 devant un parterre de stars dans les tribunes. Grosse ambiance, Nicolas Georgerot, pour cette première chez nous en France.
Des décibels en continu, des animations à n'en plus finir, l'hymne américain a cappella. Une Marseillaise originale aussi à la guitare. La NBA a fait le show comme elle sait le faire, opération réussie.
C'est super cool d'avoir un match de NBA à Paris, c'est super de vivre ce moment-là. Si j'ai la chance d'avoir des places, je le referai l'année prochaine.
À l'événement à la hauteur, franchement, ça ressemble beaucoup à l'Amérique. Ils sont mieux avec leur coach chez nous et ils ont vraiment bien amené leur concept.
Sous le regard de Neymar et de Mbappé au premier rang, un hommage également rendu au meilleur basketteur français de l'histoire.
L'honneur d'être ici, je suis vraiment content pour le basket français.
Et l'icône Michael Jordan, propriétaire des Charlotte Hornets, qui valide ce déplacement en France.
On est très content d'être ici. Je pense que beaucoup d'équipes voudraient être à notre place. C'est super de voir un autre pays, une autre culture. Toutes les équipes aiment cette opportunité de représenter la NBA.
Avec la volonté de la NBA de s'inscrire dans la durée à Paris, peut-être jusqu'aux Jeux de 2024.
Merci Nicolas Georgerot. Il y avait Mbappé, Neymar, vous le disiez, au bord du terrain, mais aussi Teddy Riner ou encore Jamel Debbouze dans les tribunes. Moins de monde, moins d'ambiance hier soir à Nice pour le coup d'envoi de la 21e journée de Ligue 1 de football. Un but partout à l'arrivée entre les Niçois et les Rennais. La suite ce samedi, le deuxième au classement, Marseille, privé de Payet, reçoit Angers. Avant 5 matchs ce soir dans le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France. Christian Olivier, Philippe Sanfour chez nos correspondants vous feront vivre notamment Montpellier, Dijon, Brest, Amiens ou encore Monaco-Strasbourg. En Ligue 2, Lorient conforte sa place de leader au classement après un succès 2-1 contre Nancy et en attendant le Lens Clermont de ce samedi. Le foot et l'Euro 2020 du printemps prochain, on apprend que c'est M6 qui diffusera le 12 juillet à Londres la finale de l'événement. On espère que ce sera avec nos Bleus, M6 et TF1 qui se partagent les matchs de la compétition. Euro 2020, évidemment, que vous suivrez en long, en large et en travers sur RTL. RTL.fr pour toute l'actualité. N'hésitez pas. Le temps, comme promis, c'est avec Valérie pour le programme de votre samedi. C'est bien froid, à en croire les auditeurs. On a moins 3 ce matin. C'est Aline qui nous dit tout ça à Boissy-le-Cuté.
Oui, il fait moins 3 degrés à Reims, également 0 à Deauville, 2 degrés à Paris comme à Lyon, 5 à Dax. Un ciel pas trop chargé globalement, mais attention, il y a beaucoup de brouillard sur les régions les plus au nord, en Ile-de-France, en Normandie, mais aussi dans la Sarthe, en Mayenne ou encore dans le centre. Un petit peu de pluie dans le sud, en Languedoc, dans la Drôme. Et l'Ardèche, c'est un petit peu le topo du jour. Les brouillards ne vont pas forcément se lever. La grisaille pourrait perdurer par endroits, donc au nord de la Seine. Là, pour le coup, c'est très aléatoire. On va attendre, on va voir ce qui se passe. On aura de très belles éclaircies dans l'Est, dans les régions centrales. Toujours de l'instabilité toute la journée en Languedoc et sur le sud du Massif central. Et puis l'arrivée de quelques pluies aussi cet après-midi sur la pointe bretonne. Tout ça avec des températures qui ne vont pas beaucoup bouger. 5 degrés attendus à Dijon, 7 à Besançon, à Paris, à Évreux, 10 à Rodez, 12 à Manosque, 13 à Angoulême et 15 degrés cet après-midi à Marseille.
Il y a 1 degré ce matin à Chambéry, Aude-Emmanuel du coup reste sous la couette. Quelle belle idée. Bernard et Nilo aussi sont au lit et nous écoutent. Ils sont au Lavandou dans le Var. On a le coucou de Patricia qui est au volant. Merci.